Radio Kapi. Oh, Kapi. Journal présenté par Noéla Louzi Toukabambi.
La situation sécuritaire continue à se dégrader dans plusieurs agglomérations du territoire de Massissi au Nord Kivu, alerte la société civile de Boabo. Le M23 avance vers d'autres entités du territoire après l'occupation des groupements de Kibabi, Matanda, Karuba, Ufamandu 1 et une partie de Boabo, précise un membre de cette société civile. Deux personnes sont décédées et une est portée disparue après la chute de l'une des grandes citernes chargées de blé de la minoterie Mino Congo sur l'avenue Ntango au quartier Gébé dans la commune d'Engaliema ici à Kinshasa. La citerne est tombée vers 2h du matin hier mercredi sur une maison voisine à cette usine entraînant la mort de deux personnes. La troisième victime est un ouvrier de l'usine qui effectuait des travaux sur la citerne d'après des témoins. Caleb Moukadi est l'invité de ce journal. Il est expert technique à l'ITIE RDC. Il a présidé au Maniema les travaux de l'atelier de dissémination du rapport ITIE RDC exercice 2020-2021. Bonjour à tous. Au Nord Kivu, la société civile de Boabo alerte sur la situation sécuritaire qui continue à se dégrader dans plusieurs agglomérations du territoire de Massissi. Après l'occupation des groupements Kibabi, Matanda, Karuba, Ufamandu 1 et une partie de Boabo, un membre de la société civile déplore le fait que les rebelles du 1-23 avancent vers d'autres entités du territoire. Il parle de la résistance de quelques groupes armés locaux pour contrecarrer cette avancée des rebelles. Par ailleurs, héritier Boussomoke appelle le gouvernement à plus d'action. Il est joint ici par Bernard Nyangi.
Nous déplorons la situation sécuritaire qui reste dégradante dans plusieurs agglomérations du groupement Boabo et du groupement Nyamaboko Premier, vers l'axe Luke, Katobotobo, Bushiha, Katahandwa, Kazinga et Kashenyi, et vers la route qui mène Ngululu et Mikeno. C'est depuis hier qu'il y a eu des combats avec nos compatriotes Bazalendo, mais ils ont repoussé un peu l'ennemi. Mais nous demandons à notre gouvernement de soutenir ces vieux combattants en logistique pour qu'ils puissent combattre pour leur pays. Et nous demandons aussi à toute la population de se joindre ou d'être derrière les Bazalendo qui sont en train de combattre pour les pays.
Rappelons qu'hier mercredi, le 1-23, appuyé par l'armée rwandaise, a occupé les villages de Luke et Mulema dans les groupements de Nyamaboko 1 et 2. C'était presque 100 combats après que les combattants locaux qui occupaient la zone ont décroché, déplorent des sources sur place. Les administrateurs des territoires de Beni au Nord Kivu et du Rumo-Anitouri, auxquels se sont jointes les autorités coutumières des deux entités et celles du territoire de Mambasa, se sont réunis mardi à Ouicha, chef-lieu du territoire de Beni, pour échanger sur la situation sécuritaire dans les trois entités. La rencontre avait pour objectif la mise en place d'un mécanisme d'échange d'informations sur les mouvements des rebelles des ADF dans cette région et faciliter ainsi leur traque par les militaires FRDC dans les zones non couvertes par les opérations conjointes FRDC-UPDF. Marc Marot, Fimbo, pour plus de précisions.
C'est une rencontre d'ordre sécuritaire qui a connu la participation des autorités territoriales de Beni et Irumu, les chefs des entités coutumières ainsi que les acteurs de la société civile et des droits de l'homme. Elle est consécutive aux multiples attaques des ADF dans cette région, à cheval entre les territoires de Mambasa et Irumu en Ituri et les territoires de Beni au Nord Kivu, explique le colonel Charles Euta Omeonga, administrateur du territoire de Beni.
Nous sommes réunis aussi et prendre certaines décisions et échanger des informations et quelques expériences pour que les choses puissent bien marcher.
La rencontre avait également pour objectif de sensibiliser la population, représentée par leurs leaders communautaires et les leaders d'opinion des entités concernées, indique le colonel Siro Simba, administrateur du territoire d'Irumu.
Ici, nous sommes venus écouter nos deux populations pour qu'ensemble, qu'on puisse réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut pour arrêter cette hémorragie de tuerie à répétition, de kidnapping et des vols de produits pérennes. Nous aurons une réunion pour prendre des mesures et formuler des recommandations qui seront orientées parmi les responsables.
Beni. Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Toujours dans le territoire de Beni, le député national Eli Kambale Vagumawa se dit préoccupé par la situation d'insécurité qui sévit à Mangina, une commune rurale située à 30 km au sud-ouest de la ville de Beni. Il s'est rendu mardi sur place à Mangina où plusieurs attaques des ADF ont eu lieu ces dernières semaines. Cet élu du territoire de Beni plaide ainsi pour le renforcement en hommes et en logistique des FRDC basés dans cette partie du territoire pour faire face à l'activisme des ADF. Le député Eli Kambale Vagumawa explique au micro d'André Kitenge.
Rien qu'en entrant dans la commune rurale de Mangina, c'est la désolation. Cette population qui commençait déjà à émerger grâce à l'agriculture, aujourd'hui cette population, la plupart de ces gens se trouvent à Beni comme déplacés. Et ceux qui sont restés là, dernièrement à date du 28 mars, il y a eu l'incursion des EDF où nous avons compté plus de 10 personnes tuées. Mais sinon, Beni est en train de se vider sur tous les territoires petit à petit de sa population d'assistance. Cette partie des Mangina. Au niveau du gouvernement, je crois qu'il faudra premièrement en ce qui est augmentation d'hommes militaires au niveau de la région de Beni. Au-delà de l'augmentation des effectifs militaires, c'est aussi la logistique qu'il faudra augmenter. C'est aussi la communication. La communication, c'est aussi redonner le sens à ces mariages civilo-militaires. Aucune guerre ne peut se gagner sans la population et notre souci, c'est qu'il y ait le renforcement de cette confiance entre la population et son armée.
Nous en parlions dans le sommaire. L'une des grandes citernes de la minoterie Mino-Congo chargée de blé s'est affaissée. Elle est tombée vers 2h du matin hier mercredi sur une maison voisine à cette usine, causant la mort de deux personnes. Le drame s'est produit sur l'avenue Ntangu au quartier Gébé dans la commune d'Engaliema, ici à Kinshasa. Les victimes sont un enfant et une femme âgée. Toujours chez les voisins, une troisième personne blessée a été dépêchée vers un centre de santé. Un ouvrier de l'usine qui effectuait des travaux sur la citerne, d'après des témoins, et lui, toujours porté disparu, il serait tombé dans la citerne d'après des sources sur place. Il a fallu plusieurs heures pour retirer les corps des deux premières victimes sous l'avalanche des sons de blé qui les recouvraient. Dans un communiqué rendu public hier mercredi, l'ONG ACAJ demande l'ouverture d'une enquête judiciaire crédible sur l'effondrement de ce silo à blé de la société Mino-Congo. Pourquoi le gouvernement provincial de Kinshasa avait autorisé la construction de ces silos dans un quartier résidentielle, se demande l'ONG. Selon elle, toutes les plaintes adressées au gouvernement provincial par les résidents du dit quartier pour pollution environnementale et troubles de voisinage n'ont jamais été traitées. Au Kwilu, plus de 100 décès maternels ont été enregistrés dans la province en 2023 et depuis le début de l'année 2024, au moins 45 décès maternels sont signalés. Révélation faite par Dubois Tampo du Programme national de la santé de la reproduction, PNCR, Kwilu. Il l'a dit au cours de l'atelier de formation sur les soins obstétricaux et néonatales d'urgence, SONU, organisé par la Division provinciale de la santé DPS à l'intention des sages-femmes de la zone de santé de Bandundu. Cet atelier de 8 jours qui a débuté mardi à Bandunduville se tient grâce au financement du projet multisectoriel de nutrition et santé. Irène Bomaluzolo.
Malgré la baisse des taux de décès maternels et périnataux signalés au pays, les différentes zones de santé de la province du Kwilu continuent d'enregistrer de plus en plus ces décès. C'est ce que déclare le superviseur chargé de la maternité à moindre risque au niveau du PNCR Kwilu et formateur à ses assises. Dubois Tampo.
L'année passée, nous étions à 110 décès maternels, 370 décès, rien que des enfants de 0 à 28 jours. Par rapport à ce premier trimestre, à ce jour, nous sommes tout autour de 45 décès maternels déjà.
Les causes principales de ces décès sont entre autres les hémorragies et les avortements clandestins, ajoute Dubois Tampo. D'après lui, ces assises ont pour but de réduire tant soit peu les taux de décès qui parfois sont évitables.
Nous nous retrouvons ici pour relever un peu le niveau de prestataires, pour ne fût-ce que réduire le nombre de ces décès. Parce qu'il y a des cas, avec un seul geste, on arrive à sauver la femme. Mais peut-être ces informations ne sont pas à la portée des prestataires. C'est ainsi qu'on vient les accompagner.
Signalons que cette formation est organisée par la DPS Kwilu à travers le PNCR avec l'appui financier du PMNS et cela dans les 18 zones de santé sur les 24 que compte cette province. Irène Boma, Bandunduville. Radio Okapi.
La journée internationale de la famille, c'était hier mercredi 15 mai. Famille congolaise, enjeux et défis du réchauffement climatique, c'est le thème retenu à RDC pour célébrer cette 30e journée consacrée à la famille. Pour sa part, la ministre du Genre et Famille, Mireille Massangou, a lancé la quinzaine de la Journée internationale de la famille. L'objectif, selon elle, est d'offrir aux organisations de la société civile et aux institutions scientifiques l'opportunité de réfléchir sur les solutions durables au réchauffement climatique. Mireille Massangou est au micro de Paul Matin.
Les familles congolaises font également face aux défis environnementaux qui nous entourent dus au réchauffement climatique. Il est donc impératif que chaque famille congolaise s'engage activement dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est dans ce contexte que s'ouvre la quinzaine de la Journée internationale de la famille de cette année, pour offrir des opportunités aux organisations de la société civile et philanthropiques, à des institutions scientifiques pour réfléchir sur les stratégies et les programmes et projets en mesure de relever les défis au changement climatique en apportant des solutions durables qui impliquent la famille et contribuent en même temps à la stabilité.
Crise à l'Assemblée provinciale de l'Équateur, l'élection du bureau définitif est annoncée pour le lundi 20 mai prochain, ce qui devra rendre possible l'organisation des élections des sénateurs et du gouverneur de province, élection fixée au 24 mai prochain par la CENI, suivant le rapporteur du bureau d'âge Jean-Paul Elekola, au micro de Paul Richard Malengela.
J'appelle la population au calme et à continuer à nous donner la confiance d'après les sources de la Cour constitutionnelle que nous avions eues en communication. Cet arrêt nous serait notifié aujourd'hui même, mercredi. Le bureau d'âge a lancé déjà un appel d'offres et les différents candidats commencent déjà à déposer les candidatures. Votre bureau a aussi, pour raison de la paix, élaboré un calendrier qui est déjà signé. Dès qu'on serait signifié, la minute qui suit, on va afficher ce calendrier électoral. Le dépôt de candidatures continue dès aujourd'hui. Ça va prendre fait demain, jeudi. Le vendredi, nous allons traiter, sélectionner les candidatures qui sont déposées. On voit si telle candidature a respecté les critères. Et samedi, aux avant-midi, vers 9h, on va afficher la liste des candidats retenus. Et le lundi prochain, nous allons passer à l'élection des membres du bureau définitif et leur installation.
Rappelons que pour les 5 postes du bureau définitif, le bureau provisoire a déjà réceptionné 2 candidatures pour chacun de ces 5 postes. Il s'agit des mêmes membres qui composaient également les 2 bureaux définitifs parallèles contestés. À Kinshasa, l'ASBL, les Amis des Bonobos du Congo ABC, dit rester confiante dans sa mission de protéger la biodiversité avec et pour les populations locales qui doivent être les premières bénéficiaires des ressources de la forêt et des opportunités que cette forêt crée. L'ABC le dit dans un communiqué publié hier, dont une copie est parvenue à Radio Okapi. Elle proteste contre certaines affirmations qu'elle qualifie de mensongères distillées par une certaine opinion à Bassankoussou dans la province de l'Équateur. Les détails avec vous, grâce à Mzati.
ABC rejette les allégations selon lesquelles elle aurait induit le ministre de l'Environnement en erreur ou encore qu'elle aurait falsifié les signatures des chefs des groupements Ilonga, Po et Lissafa pour obtenir un grand espace dans la forêt afin d'y héberger les singes bonobos. Cela au détriment des communautés locales comme l'ont affirmé 2 médias de Bassankoussou. L'ABC dit rester fidèle à sa mission de sauvegarder la biodiversité congolaise, notamment l'espace endémique bonobo, en collaborant étroitement avec les communautés locales de Bassankoussou, contribuant ainsi à faire de la RDC un pays solution, indique le communiqué. Enfin, l'ASBL, les Amis des Bonobos du Congo, conclut qu'il ne se laissera pas intimider et continuera ses efforts pour que les communautés locales autour de la réserve communautaire Ekolo ya Bonobo soient les véritables acteurs de la conservation et les principaux bénéficiaires des avantages nés d'une conservation effective.
Actualité internationale.
Le bilan des 3 nuits d'émeutes en Nouvelle-Calédonie s'élève à 4 morts, dont un gendarme. Face à l'embrasement de l'archipel et à la montée des tensions entre loyalistes et indépendantistes, le président français Emmanuel Macron a décrété l'état d'urgence. L'armée a été déployée pour sécuriser les ports et l'aéroport. Le président français Emmanuel Macron a proposé aux élus de Nouvelle-Calédonie d'avoir un échange avec lui par visioconférence ce jeudi à l'issue d'un nouveau conseil de défense qui doit se tenir à 11h.
L'invité.
Notre invité, c'est Caleb Moukadi, expert technique à l'ITIER RDC. En séjour au Maniema, ce dernier a présidé les travaux de l'atelier de dissémination du rapport ITIER RDC exercice 2020-2021 et ses compléments. Caleb Moukadi répond aux questions de Florence Kizalunga.
Monsieur Caleb Moukadi, bonjour.
Bonjour madame.
Quelles sont les grandes innovations contenues dans ces rapports dont vous faites la dissémination aujourd'hui?
Merci beaucoup madame. Ce rapport 2020-2021 que nous disséminons à travers les parties prenantes aujourd'hui dans la ville de Kindu a le mérite de pouvoir ramasser comme complément les questions sur l'artisanat minier des deux filières principales, la filière de 3T or et la filière de cuivre et cobalt, ainsi que de revenir sur les questions socio-environnementales liées à l'exploitation des ressources naturelles minières comme nous sommes dans la province du Maniema.
Est-ce que dans ces rapports, on cite les Maniema? Si oui, à quel niveau?
Oui, la province du Maniema est citée dans le rapport ITE 2020-2021, notamment à travers la production dans les 3T or. Il y a des entités de traitement, il y a des entreprises aussi bien du portefeuille comme la Sakima, aussi bien que les entreprises privées et les entités de traitement, mais aussi le rapport fait mention également de la DGERMA qui perçoit certaines ressources, notamment la redevance minière, de même aussi certaines ETD, donc des entités territoriales décentralisées qui bénéficient d'une quote-part de la redevance minière.
Et ce n'est pas le premier rapport ITIER-RDC faisant objet des disséminations. Est-ce qu'il y a de résultats positifs ici, des autres rapports déjà disséminés?
Effectivement, il y a des résultats positifs par rapport à d'autres rapports déjà disséminés, déjà publiés. Comme vous le savez, à chaque fois que l'ITIER publie un rapport, à l'intérieur de ce rapport se trouvent des recommandations. Et ces recommandations, lorsqu'elles sont suivies, elles permettent d'améliorer la gouvernance. Nous avons cité parmi les améliorations de la gouvernance, il y a eu par exemple la prise d'un décret du Premier ministre qui a permis de pouvoir organiser, réorganiser la collecte et la répartition de revenus liés à la redevance minière pour les ETD. C'est à l'issue du débat entre les parties prenantes qu'on a trouvé que les parties prenantes se sont mises d'accord sur certaines dispositions qui peuvent améliorer la collecte et la répartition de la redevance minière des ETD.
Alors, quel état de lieu faites-vous en se référant au rapport sur les contributions des industries extractives du Maniema sur les trésors publics?
Il faut le dire. Toutes les entreprises, surtout le territoire national, contribuent au trésor public, notamment lorsqu'elles payent des revenus aux régies financières nationales, donc la DGI, la DGRAD et la DGDA, et que ces revenus sont versés directement dans les trésors publics à travers l'affectation des revenus. Donc, d'une manière ou d'une autre, toute entreprise qui paye des revenus à la DGI, à la DGRAD, à la DGDA, il y a une quote-part qui revient au trésor public. Donc, effectivement, les entreprises du Maniema contribuent également au trésor public central et contribuent également aux ressources de la province et des ETD à travers notamment la redevance minière.
Vous visez quoi en organisant ces ateliers de dissémination de rapports ITIER-RDC?
En fait, conformément à la norme ITE, lorsqu'un rapport est publié, il doit être largement disséminé à la population parce que c'est en fait la population qui est le vrai propriétaire des ressources naturelles, aussi bien des mines que des hydrocarbures. Donc, lorsque le rapport est publié, il doit être largement partagé, largement expliqué et disséminé à la population. Et cette dissémination doit normalement permettre à la population de s'approprier des contenus du rapport afin qu'elle puisse mener un débat citoyen avec les données et les informations qui sont contenues dans ces rapports et que ce débat puisse permettre de pouvoir, s'il y a lieu, impulser l'amélioration de la gouvernance de nos ressources naturelles et des revenus que ces ressources génèrent.
Alors, à l'issue de ces assises, quelles sont les grandes conclusions de cette rencontre?
À l'issue de ces rencontres qui ont duré 3 jours, nous avons reçu une large participation des entités de l'État, aussi bien du gouvernement provincial que des ETD, des entreprises, aussi bien de la société civile. Et toutes ces parties ont été informées du contenu du rapport et ont été amenées à pouvoir analyser de manière pertinente les informations qui sont contenues dans le rapport afin de pouvoir appliquer les recommandations dans leur juridiction, dans leurs entités, dans leurs entreprises respectives. Notamment en ce qui concerne les entreprises extractives, il leur a été dit de pouvoir se conformer aux obligations sociales et environnementales et aux ETD de pouvoir se conformer à ce que prévoient les lois par rapport à la gestion des revenus issus du secteur extractif qui sont des revenus publics, qui sont en fait des finances publiques et donc qui doivent être gérés conformément aux lois, notamment à la loi des finances publiques.
Qu'est-ce qui suivra après cet exercice ?
Après cet exercice, en fait, chaque entité qui a participé à ces assises va aussi aller partager le contenu de ces assises, mais aussi le comité national est en train de rédiger le rapport ITE 2022.
Monsieur Caleb Mukandi, merci.
Je vous remercie, madame.
Et c'est la fin de ce journal, la troisième grande édition de ce matin sur Radio Okapi. Merci de l'avoir suivi.